Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter l'histoire du plus grand tueur en série français. Enfin, du possiblement plus grand tueur en série français, parce que vous verrez, cette histoire se termine par un coitus interruptus. Il s'appelle Yvan Keller. Il a avoué 150 meurtres de vieilles dames. On lui en colle à coup presque sûr 22. Tout ça se passe dans les années 90 en Alsace, d'où le choix de mon invité pour le débrief, Jean-Marie Storkel, à l'époque journaliste au journal L'Alsace et auteur d'un livre aux éditions Basberg qui s'appelle 50 nuances de crime et qui traite notamment de cette affaire. Interview disponible dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation signée Mathieu Fret.
Europe 1. Christophe Ondelat.
Ça se passe le 29 avril 1994 dans un petit village d'Alsace, Burnopt-le-Haut. C'est ce jour-là qu'on retrouve Augusta Wassmer morte dans son lit. Elle avait 77 ans. Ça faisait plusieurs jours que ses voisins ne l'avaient pas vue et ça les a intrigués parce que d'habitude, elle sortait tous les jours dans son jardin. Alors ils ont alerté la famille, ils sont arrivés, ils ont cassé un carreau pour rentrer et ils l'ont trouvée morte dans sa chambre. Au début, ça n'est pas une mort inquiétante. Elle est couchée sur son lit, droite comme un i, les bras bien le long du corps, avec le dessus de lit sous le menton. On dirait qu'elle est déjà au funérarium. Son visage est paisible. Elle est morte pendant son sommeil. Et puis c'est tout. Morte de vieillesse. Bon, écoute, je vais appeler le docteur qui vienne constater son décès. C'est à partir de là que ça se complique. Le médecin arrive, il se penche sur le corps et là, il se tourne vers la famille.
Je suis désolé, messieurs, dames, mais je ne vais pas pouvoir signer le certificat de décès.
Ah bon? Et pourquoi?
Écoutez, ça fait trois fois que je viens dans cette rue, trois fois en trois mois, et à chaque fois on m'a demandé de constater le décès d'une vieille dame morte, à peu près dans la même position, sagement couchée sur son lit. Alors en janvier, c'était Madame Winderoller, 82 ans, elle était âgée, mais elle était en bonne santé. Et après, en février, ça a été Madame Mang, hein, 86 ans, et elle aussi avait la tête bien posée sur l'oreiller. Et maintenant, c'est votre mère. Vous comprenez que ça m'intrigue. Et donc cette fois-ci, je suis désolé, mais je veux que les gendarmes soient prévenus. Si ça se trouve, c'est le hasard. Mais quand même, je préfère avoir l'avis des gendarmes.
Sage décision. Et donc, les gendarmes débarquent.
Bon, messieurs, dames, imaginons que son décès soit de nature criminelle. A priori, rien ne l'indique. Mais imaginons. Est-ce que vous avez constaté qu'il manquait des choses dans la maison?
Ben non. Enfin, je crois pas.
Vous n'avez pas constaté que les armoires avaient été fouillées, par exemple?
Non.
Pas de traces d'effraction?
Non plus.
Et les deux autres, Madame Winterroller et Madame Mang, idem. Quand elles sont mortes, leurs familles n'ont rien trouvé d'anormal. Cela dit, maintenant qu'il y a cette suspicion de crime, le fils de Madame Mang veut bien reconnaître qu'il s'est passé deux ou trois choses bizarres à la mort de sa mère.
C'est-à-dire que c'est plus tard que je me suis aperçu que la grille du soupirail au sous-sol avait été décelée. Alors c'est moi qui l'avais installée, cette grille, à peine quelques mois plus tôt. Mais sur le moment, bon, j'ai pas cru à mal.
Et c'est tout?
Non, non, on lui a volé de l'argent aussi. Je sais qu'elle gardait environ 30 000 euros, je crois, pour qu'on lui paye les obsèques, justement. Et c'est vrai qu'au moment de sa mort, on les a pas retrouvés.
Bizarre, bizarre. Sauf que le procureur, du coup, a ordonné une autopsie du corps d'Augusta Wassmer, qui vient de mourir, et on ne s'attendait pas du tout à ce verdict.
La pauvre femme s'est étouffée dans son sommeil. Il s'agit donc d'une mort naturelle.
Donc, Augusta est bien morte de sa belle mort.
Eh bien, c'est pas sûr. Car ses enfants aussi viennent de s'apercevoir que finalement, il manque des choses chez leur mère.
Avec du recul, on n'arrive pas à retrouver une boîte dans laquelle elle mettait de l'argent. Et surtout, on n'a pas retrouvé sa carte bancaire. Alors on est allé voir son compte et on s'est aperçu qu'à 3 reprises, on avait retiré 1000 euros sur son compte.
Et quand ont eu lieu ses retraits?
Eh ben c'est ça le problème. Ils ont eu lieu après son décès.
Après son décès? Donc il n'y a plus de doute. Elle n'a pas pu mourir de sa belle mort et retirer de l'argent le lendemain. À moins que ses petits-enfants, par exemple, n'aient opportunément profité de la mort de mamie pour faire main basse sur ses économies. C'est une première piste. Les deux petits-fils d'Augusta se retrouvent donc face aux gendarmes. Mais pas longtemps, puisque de toute façon, mamie est morte de mort naturelle. Et les deux autres? Ah ben c'est le hasard. Affaire classée. À partir de là, les années passent et maintenant on est en 2003. Ça fait 9 ans qu'Augusta est morte. Et un jour de juin, un homme se présente au commissariat de Mulhouse, un hurluberlu, très agité, incohérent, manifestement un peu zinzin.
J'ai très grave révélation à faire. Très grave. Très grave.
Les flics à l'accueil l'enverraient bien à l'HP gober une petite pilule bleue, mais ils préviennent quand même le patron de la crime.
Venez là, monsieur. Vous allez m'expliquer.
Expliquer? Mais il n'attend que ça. Sauf que pour comprendre ce qu'il a à dire, faut s'accrocher.
Alors je vais vous dire tout, hein, mais faudra me croire, hein, parce que déjà je me crois pas. Hein, mais moi, je raconte pas de conneries, hein, parce que les conneries, oh, j'en entends assez, hein, les gens sont fous.
Monsieur, calmez-vous. Essayez de me dire ce que vous voulez me dire.
Ah, mais ce que je vais vous dire, c'est important, hein, c'est rapport à une femme que je fréquente, depuis un mois, c'est une sacrée fille, hein, je peux vous dire.
Monsieur, concentrez-vous sur ce que vous avez à me dire.
Mais elle s'appelle Marina. C'est une bonne fille, hein, je vous jure, monsieur le commissaire. Oh, ben c'est une bonne fille.
Concentrez-vous, monsieur. Allez, faites un effort.
Bon, d'accord. Cette fille, avant, dans les années 90, elle était avec mon frère. Oh, ça durait des années. Oh, ben, c'est bien, hein, quand ça dure des années.
Monsieur... Où voulez-vous en venir?
Eh ben, cette fille, elle m'a dit qu'autrefois, avec mon frère, ils ont fait des cambriolages et qu'à l'époque, ils ont tué des gens. Tué, monsieur le commissaire, oui, tué. Enfin, mort, si vous voulez. Elle m'a dit qu'il y avait eu un meurtre à Morcheviller-le-Bas. Là, c'est elle qui a tué, puis un autre meurtre à Brunstatt. Là, c'est mon frère. Et c'est une vieille femme qui l'a tué.
Et il s'appelle comment, votre frère?
Mon frère?
Oui, votre frère.
Eh ben, il s'appelle Keller, comme moi.
Son prénom?
Yvan. Yvan Keller.
Le type, toujours aussi agité, raconte que le frérot avait une technique, toujours la même. Une fois dans la maison, il allait directement dans la chambre et il étouffait l'occupante avec son oreiller. Et après, il fouillait la maison en remettant tout bien à sa place à chaque fois. Et il emportait ce qu'il trouvait.
Et alors avant de partir, bah, il mettait la dame bien droite dans son lit, comme si qu'elle était morte de vieillesse. Bah, comme ça, il n'y avait pas d'enquête. Ça vous a intéressé, monsieur le commissaire, ce que je viens de vous dire?
Oui, monsieur. C'est intéressant. Vous allez rentrer chez vous, hein, maintenant?
Non, mais ça vous a vraiment intéressé?
Oui! Au point d'ailleurs que le flic rentre le nom de cet Yvan Keller dans le fichier.
Ah,
il est connu, le monsieur. Il a été condamné en 1984 pour un braquage et une série de cambriolages. Ça lui a valu 10 ans de prison. En revanche, depuis qu'il est sorti, rien.
Oh, dis-moi, tu peux vérifier s'il y a eu un meurtre à Morcheviller Dans les années 90? Une vieille dame, a priori.
La réponse est oui. Sauf qu'à l'époque, un type a avoué. Un type de la famille.
Donc?
Ah ben donc, ce type complètement zinzin raconte n'importe quoi. Sauf qu'un policier de la brigade commence à se gratter la tête. Cette histoire de tueur de vieille dame dans les années 90, ça lui rappelle quelque chose.
Tu devrais aller voir Daniel. C'est lui qui a travaillé là-dessus à l'époque. Je crois qu'à l'époque, le nom de ce Keller était déjà sorti.
Daniel est un ancien de la crime. Il est à la retraite. Mais il n'a pas perdu la boule, hein. Cette histoire de tueur de vieille dame lui dit en effet quelque chose.
Je crois que c'était en 1993.
Oui, c'est ça. 93. Un soir, on a arrêté un gars sur un parking, un gars qui s'appelait François de Nicolo.
Juste pour un contrôle, tu vois.
Et là, le type s'est mis à dire, ouais, vous emmerdez les honnêtes gens, alors que vous laissez courir ceux qui volent et ceux qui tuent les grands-mères. Ah, je lui ai demandé, t'en connais des types comme ça qui tuent des grands-mères? Et là, il m'a balancé un nom. Il m'a balancé le nom d'Ivan Keller. Il disait que c'était un copain à lui, et il s'est mis à me raconter que le type rentrait la nuit chez les vieilles dames et qui commençait par les étouffer, et puis après qui cambriolait la maison.
Et t'as fait quoi à l'époque?
Ben, on s'est rencardé pour savoir s'il y avait des vieilles dames qui avaient été tuées, et en l'occurrence étouffées à l'époque. Et alors on est tombé sur trois affaires, trois vieilles dames qui habitaient la même rue et qui étaient mortes à quelques semaines d'intervalle.
Et alors?
Et alors le légiste a conclu que c'était des morts naturelles. On n'est pas allé plus loin.
Les policiers se disent.
Il y a 10 ans, on a déjà dénoncé cet Ivan Keller en tant que tueur de vieilles dames. Ça peut pas être le fruit du hasard. La piste est plus crédible qu'on ne le pensait. Faut se rencarder sur ce Keller. Et vite.
Bon. Voilà ce que j'ai pu apprendre sur lui. Il est né en 1960. Petit dernier d'une famille de 9 enfants. Sa mère est morte quand il était gamin. Et c'est le père, figure-toi, qui aurait poussé ses fils à se lancer dans des cambriolages. Donc ça commençait par des vols de vélo, et puis après des petits cambriolages, et puis un braquage dans un bistrot, et puis des vols avec violence. Et, mais ça on le savait déjà, il a fini par se retrouver dans la cour d'assises. Il a été condamné à 10 ans, il en est sorti en 89, et depuis, ben plus rien. Le type se tient à carreau, semble-t-il.
On sait où il vit aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Rue de Verdun à Mulhouse, dans une jolie maison. Il a une femme, il est jardinier.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.